Bella Ciao. Set de cœur.
Aujourd'hui, Bella Ciao, les rencontres Mathieu Cotte. Quatrième et dernière émission avec Léman et Auré. Léman, tout d'abord, prix de la Manufacture Chanson de Paris, prix de la Ville d'Issoire et prix des festivals des Tours de Chant de Toulouse et Gléa-Neava.
On attend que la nuit tombe, on attend quelques secondes patiemment, voir si l'on compte vraiment. Voilà, trop souvent, c'est dans ton verre que tu te noies. T'es plus le même quand tu bois, papa. Toi tu me manques, je m'en vais en toi. Dis-moi comment faire de mon mieux avec ça. Oui, j'apprends tout seul à être grand. Non, je ne veux pas devenir comme toi. Tu vas au rhum quand rien ne va. Pourquoi ça tombe sur toi? Juste un peu, rien qu'un peu.
On attend.
De Léman. Léman, bonjour.
Bonjour.
Chanson, c'est une musique, ce sont des paroles. Alors, je ne vais pas demander par quoi on commence, mais en fait, tout jeune, on est attiré par l'écriture ou par la musique. Musicien ou plutôt écriture?
Bonne question. Les deux, je crois. Musique, peut-être à la base la musique, et après je me suis rendu compte que des émotions qu'on pouvait avoir avec juste les sons peuvent être encore amplifiées avec des textes, des beaux textes, et les mots quand ils sonnent bien et quand ils sont bien agencés entre eux, et voilà, quand on a les deux ensemble, c'est ce que je préfère, donc c'est ce qui m'a amené à ça, en tout cas à la musique et à l'écriture, et essayer de faire du mieux possible les deux.
La musique, c'était quel instrument, au singulier ou au pluriel ?
À la base, c'est la guitare, guitare électrique. À la base, j'ai commencé comme ça, en étant ado. Et après, je suis venu au chant en écoutant Patti Smith, en écoutant Jeff Buckley, en écoutant Bachung, beaucoup de grands chanteurs comme ça. Leur voix, leur façon de chanter, je trouvais ça incroyable. Patti Smith, enfin bref, voilà.
Et tout ça, ça se passait un petit peu loin d'ici, pas très loin de la Suisse, ou même peut-être en Suisse un peu au début.
Pas en Suisse, non, mais pas loin de la Suisse, en France, dans l'Ain, et en Haute-Savoie, c'est là où j'ai grandi. Ouais.
Qu'est-ce qu'il en reste de ce séjour dans cette région. Vous y êtes toujours ?
Non, maintenant j'habite à Lyon, mais il en reste ma mère qui vit toujours là-bas, ouais. Et mon enfance.
Il y a eu un premier groupe, Hawkins ?
Hawkins, ouais. Mon premier groupe Hawkins, c'est avec lui que j'ai fait beaucoup de mes premières armes dans des petites salles, dans des très grosses salles, dans beaucoup, beaucoup de galères. Enfin, les galères, c'est tout le temps là, mais j'ai beaucoup appris avec lui. Je continue d'apprendre, évidemment. Mais c'était un groupe... du coup, j'étais plutôt chanteur dedans. Je faisais pas trop guitare qui accompagnait, quoi. On a sorti deux EP. On a fait les premières parties de Chaka Punk dans des Zéniths. Ça, c'était nos plus gros faits d'armes. Mais voilà, c'était de la musique un peu plus rock, un peu plus stoner, un peu plus, qui envoyait un peu plus que... C'était en gros... Le deuxième EP qu'on a sorti, c'était vraiment du Muse, mais le Muse qui tabasse, qui tabasse bien, ouais. En français.
Il y a eu The Voice ?
Il y a eu The Voice après, ouais, tout à fait.
Qu'est-ce qu'il en retient ? Qu'est-ce que ça amène ou n'amène pas ?
Ça m'a fait énormément grandir. C'était une expérience incroyable, The Voice. Je suis pas allé très loin, mais tout ce que j'ai appris sur moi-même, sur ce monde-là qui est la télé, et j'ai fait des rencontres incroyables. J'ai toujours plein d'amis que je me suis fait là-bas. Enfin, c'était humainement, c'était une expérience de fou. Musicalement, j'ai appris énormément aussi. Ouais, c'était vraiment super.
Vous étiez à la guitare pour vous, vous écriviez pour vous. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça a basculé vers une autre dimension, vers les autres, y compris vers du professionnel ?
Je sais pas. Je sais pas répondre à cette question. Je crois que ça s'est fait naturellement. Enfin, j'ai juste écrit des chansons pour m'exprimer parce que c'était le truc qui me faisait du bien. Et puis... De fil en aiguille, j'ai voulu faire des concerts, le montrer, et puis on cherche toujours à s'améliorer jusqu'à toucher du doigt le côté professionnel. Et voilà. Me voilà aujourd'hui avec mes petites chansons.
Et la scène, elle fait du bien aussi dans le prolongement ?
Bien sûr, la scène, elle fait du bien parce que c'est le prolongement, la continuité du studio, ou le studio, et même avant le studio, le moment où je suis tout seul chez moi, ou même dans ma tête, carrément à réfléchir à des tournures de phrases, à réfléchir à des sons ou à des façons d'écrire une chanson, de retranscrire ça en studio, de chercher la meilleure façon de mettre en forme tout ça, et après de le partager avec les gens, déjà via les réseaux sociaux, déjà via le fait de sortir une chanson, que les gens peuvent écouter et faire des retours. Mais la scène, c'est le point final en termes de partage avec les gens, parce que là, pour le coup, c'est en direct et c'est physique. Enfin, ils sont en face de toi. Et tout est complémentaire. C'est génial.
Le studio, ça donnera quoi ou ça a donné quoi en termes de concret, support physique ?
Pour l'instant, on a sorti 3 chansons. Et on a prévu de sortir un EP courant de l'année. On n'a pas encore de date, mais je travaille encore dessus.
Réaliser comment cet EP ? Les chansons, elles sont entièrement de l'aimant ? Paroles et musique ?
Oui, dans le sens où je suis à la base de tout, mais heureusement, je ne travaille pas tout seul. J'ai une équipe de gens vraiment super avec qui je travaille sur... différents points de chaque chanson. Il y en a certaines que j'écris avec mon pote Marc. Là, en l'occurrence, quasiment toutes de l'EP, on a travaillé ensemble dessus. Après, on les retravaille en studio avec mon pote Johan. Il y en a d'autres que j'ai écrit avec mon pote Manu. J'ai la chance d'avoir une équipe comme ça de gens avec qui composer, écrire. Aussi le texte, je me fais toujours relire. Parfois même, j'écris pas tout seul. Non, c'est cool de pouvoir être entouré, de pouvoir aussi accepter la critique, enfin recevoir de la critique de la part de gens bienveillants et qui, en plus, sont souvent très pertinents dans leur critique.
On en revient à la scène déjà évoquée. Ce soir, aux rencontres Mathieu Cotte, vous allez être tout seul. C'est quoi l'enjeu pour vous ? Un concert particulier ou pas ?
L'enjeu pour moi, c'est d'abord de faire un bon concert, je crois. De faire du mieux possible ce que j'ai préparé. Si je fais ça, c'est j'ai réussi pour moi ce que je suis venu faire.
Les mains, j'ai l'impression qu'il y a 2 projets chez vous. Il y a tout ce qu'on vient d'évoquer, et puis il y a ce qui touche au canard.
Oui, je sais pas si. Bah non, ça fait partie du même projet. Faites référence à ma reprise de la danse des canards que j'ai sortie il y a quelques semaines. Non, c'est moi. Enfin, c'est juste que je voulais me marrer avec les gens sur Internet en reprenant cette chanson que je trouve vraiment incroyable. Premier degré, je trouve que c'est une chanson très très forte. C'est très rare d'écrire des chansons aussi fortes dans une vie. Et après, bah, faut la prendre pour ce que c'est. C'est une chanson con mais qui rentre tellement fortement en tête. Enfin, elle est tellement puissante que moi, elle m'a jamais lâché depuis que je l'ai entendue quand j'étais gamin. Et je sais pas, dans mon délire juste de vouloir toujours partager avec les gens via les réseaux sociaux, faire un peu le con, même si à côté j'ai des chansons tristes, on peut faire aussi la joie. Il y a quand même rien de plus puissant au final. Et donc voilà, j'ai juste voulu faire une version dramatique de la danse des canards, sans changer le texte, mais en changeant l'orchestration, en changeant
le sens.
Ouais, bah dans l'interprétation, ouais, du coup de faire quelque chose de très très sombre et donc en se prenant au premier degré, alors qu'en fait c'est du millième degré, mais dans l'interprétation c'est très dramatique comme ça, et ça a fait beaucoup beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Ouais.
C'est une piste à explorer parce que c'est original comme démarche. Il y a d'autres chansons qui pourraient donner comme ça prise à un détournement quelque part. Comme les goguettes détournent les paroles, là vous détournez rien, sauf le sens, un détail.
Ouais, bah, peut-être que je pense que je leur ferai un moment de m'amuser comme ça. Après, sur quelle chanson, mais il y en a plein des chansons avec lesquelles on peut faire ça. On verra pour les prochaines. Pour l'instant, je me concentre sur mes titres.
Vous voulez chanter sur scène ?
Non.
Pas encore ou pas du tout ?
Faut jamais dire jamais, en tout cas pas ce soir. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais je ferme pas la porte. Non. Ça, au contraire, ça peut être cool de faire ça en live et de voir comment le public réagira. Ouais, grave.
Léman, on va se séparer en écoutant une deuxième chanson. Mm-hmm. Ceci dit, on ne l'a pas fait au début de l'émission. Évoquer celle que l'on a entendue donc avant de démarrer l'interview. Parlez-nous de On attend.
On attend, c'est une chanson qui est très intime. C'est une chanson qui parle de l'alcoolisme de mon père et du fait que on attend, c'est ma sœur et moi. On attend qu'il arrête en fait et que ça change et qu'il nous a beaucoup dit. Souvent qu'il allait arrêter, que ça allait aller mieux, etc. Eh bien, on attend. Et on attend encore.
Et celle que l'on écoute là maintenant, Petit Garçon.
Petit Garçon. Petit Garçon, c'est une chanson faussement naïve. En fait, je me suis aperçu, en parlant avec des gens autour de moi, je me suis aperçu que j'avais ma façon de vivre la vie, qui était aussi due au fait que j'étais un homme et que j'étais blanc. Et ça fait que la vie est d'une certaine façon pour moi, et elle est différente pour des gens qui sont autres que des hommes blancs. Et on vit pas tous la même chose. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'écrire une chanson sur le fait de ce que je vis, moi, ou plutôt de ce que je ne vis pas. Et j'insiste bien sur ce fait-là, c'est je ne parle pas de ce que vivent les autres, je parle de ce que moi je ne vis pas. Et la nuance est importante. Voilà, et donc j'ai voulu en faire une chanson, et sur le ton naïf, parce que donc la chanson s'appelle Petit Garçon, c'est un petit garçon qui parle, et qui s'étonne de voir que le monde fonctionne comme il fonctionne, et avec cette naïveté, parce que la naïveté permet de questionner des choses qu'on ne questionne plus. Voilà, donc petit garçon.
Léman, merci.
Merci.
Petit garçon né blanc, avantage à la naissance, rien fait spécial pour ça. J'ai pas de mode d'emploi, juste né là où il faut, dans l'hémisphère, donc pour celui qui mange, celui du bas, pour en devenir toujours plus gras. Alors peut-être même que dans 30 ans, je serai riche et plus important, je pourrais même faire les lois et être au-dessus à la fois. Être parmi les 1% et regarder tout le monde de haut, mais quand on possède autant, dépossède tous les autres. De partout t'attis, que fait la police, quand d'autres disent c'est comme ça et rien ne changera.
comme une ombre quand je rentre seul après minuit. Pas besoin d'acheter de tampons alors que ça devrait être gratuit. Et quand je dis non, c'est d'accord, peu importe comment je m'habille. J'ai pas d'injonction au corps, ni à fonder une famille. Et j'évite tout faciès, les contrôles, les mains aux fesses. Social est la logique, on voit qu'elle est pas symétrie. Mais partout t'attises, qui fait la police quand d'autres disent c'est comme ça et rien ne changera. Mais tralali, tralala, on les écoute. J'ai toujours pas de mode d'emploi. Alors à tous ces avantages, ça vous dit, on les partage. À qui a ça en commun d'être un humain?
Après l'aimant, aurait maintenant.
Tous ces moments à tes côtés, je les revis pour me parler. Oublier. Un regard en boucle dans ma tête. Tu m'as souri juste avant de t'en aller. Les chaises sur lesquelles tu t'es posé, les photos comme elles étaient disposées. Garde ta présence, tourne dans mon esprit. Les cafés du quartier semblent vider. Les regards échangés sans gravité. Pendant qu'avec ta présence, je construis des pièces pour mon puzzle. Beaucoup de tes gestes et ma sur lesquelles tu t'es posé, les photos comme elles étaient disposées. Garde ta présence, tourne dans mon esprit. Les cafés du quartier semblent vider, des regards échangés sans gravité. Pendant qu'avec ta présence, je construis des pièces pour mon
Bonjour.
Bonjour.
Puzzle, mais parlons-en de puzzle. qu'est-ce que vous avez à nous en dire après qu'on l'ait écouté ?
Eh bien, Puzzle, c'est une chanson qui a été inspirée par un livre de Orhan Pamuk qui s'appelle Le musée de l'innocence. Et en gros, ça parle vraiment du manque d'une personne et de recréer des pièces. En fait, dans le livre, il récupère des objets de cette personne, des mégots, des vêtements, et en fait, il en fait un musée. Et moi, c'est plus, je crée des pièces à partir des souvenirs que moi, j'ai gardés de cette personne, et j'en crée mon puzzle, et c'est ma manière de me rappeler de la personne. Voilà.
Ça dit comment la chanson est venue ? Qu'est-ce que c'est les autres sources d'inspiration ?
Les sources d'inspiration, moi j'aime beaucoup lire depuis assez récemment. Et ça peut être de la lecture, par exemple, je lis beaucoup de Milan Kundera en ce moment. J'aime bien ce côté très poétique qu'il a, pour ne citer que lui. Ensuite, au cinéma, l'un de mes réalisateurs préférés, c'est Paolo Sorrentino. Et évidemment, il y a du Miyazaki un peu dans ce côté très poétique et un peu naïf, en fait. Mais voilà. Et après, dans la musique, évidemment, il y a plein d'influences très différentes qui vont de ABBA quand j'étais plus petite, à chanson française quand même. Moi, je suis vraiment Brassens m'a pas mal inspirée, Nougaro aussi, Joe Dassin. Enfin, c'est assez large quand même.
Et au moment de passer à l'écriture, c'est quoi ? Il y a un déclic qui peut inspirer une chanson précisément ? Un fait observé, une sensation reçue ? Ou ça naît comment, la chanson ?
Alors, j'ai eu plusieurs vibes. Ça a vraiment évolué au fil du temps. J'en ai vraiment eu plein. Et là, maintenant, sur le dernier EP que j'ai sorti en mars, c'était vraiment commencer une musique. J'ai bossé avec un mec qui s'appelle Louis Duro, qui est prod. Habituellement pour le rap, et en gros il commençait à faire une mélodie avec le ukulélé, ou c'était souvent quand même le ukulélé, et à partir de là j'essayais de voir qu'est-ce que ça pouvait m'évoquer, et moi j'ai gardé aussi des notes sur mon téléphone portable de choses dont j'ai envie de parler, et après j'essaye d'écrire dessus. Souvent je commence par le refrain, mais c'est vraiment une histoire de feeling, en fait, parce que le refrain c'est quelque chose de plus vague dans les paroles, qui va pas être obligatoirement précis, et ensuite les couplets vont vraiment préciser ce que dit le refrain. Et donc je commence souvent par la mélodie du refrain, les paroles, et ensuite les couplets viennent. Et là, pour la peine, ça a été très spontané dans l'écriture. Il y a beaucoup de chansons qu'on a écrites juste en une journée. À la fin de la journée, on avait la chanson. Et moi, j'adore ça parce que ça me permet d'avoir quelque chose de très frais, de très spontané et d'assez vrai, en fait. J'ai pas eu à retoucher vraiment les morceaux.
Dans les gens qui vous inspirent, vous avez souligné le côté poétique. C'est quelque chose que vous souhaitez que l'on retrouve dans vos chansons ?
Oui, en fait, je pense que c'est quelque chose qui, même malgré moi, me dépassera. Et depuis que je suis toute petite, les premiers films que j'ai vus et qui m'ont vraiment inspirée, c'était souvent des films qui avaient un côté un peu poétique comme ça, dans la banalité des choses, on va dire. C'est difficile de décrire la poésie, mais j'ai lu un truc de Kundera récemment qui disait que la poésie se trouve, on a les actions, donc tout ce qui se passe dans la vie, et la poésie c'est vraiment ce qui se passe entre les actions. Quand il se passe plus rien, c'est là que la poésie naît, et ensuite on repart dans l'action.
Vous souhaiteriez qu'on puisse assimiler vos chansons à des courts-métrages, comme vous évoquez souvent le cinéma ?
Oui, c'est vrai. En fait, mes chansons, effectivement, chaque chanson a un thème et raconte une histoire vraiment précise. Donc, ça pourrait être transformable en court-métrage. Je voudrais pas que ce soit de la musique de film, parce que ça, mes chansons ne sont pas faites pour aller avec de l'image. Mais effectivement, au même titre qu'un court-métrage, un long-métrage, voire des nouvelles ou des poésies, c'est vraiment des petites histoires uniques à chaque fois.
En termes de production discographique, il y a eu deux produits qui sont sortis. Vous pouvez nous parler du premier d'abord ?
Oui, bien sûr. Alors, le premier, il est sorti en 2019. Et lui, en termes de création, je faisais tout, beaucoup toute seule. Il était plus rap alternatif, très inspiré par Stupéflip et O2M et Camille, O2N et Camille. Et voilà, mon idée, c'était de faire des jeux avec ma voix. Je les ai beaucoup bidouillés. Je faisais beaucoup plus de prod. Et dans mes textes, je recherchais vachement le côté technique, le côté jeu de mots. Et pareil, il y avait vraiment des thèmes très, très forts dans mes chansons. Et c'était plutôt des personnages. Enfin, ça parlait de moi, mais c'était pas intime, là où le second EP est quand même plus intime pour la peine. Donc il était plus joueur, un peu plus malicieux, mais aussi un peu plus maladroit, je pense.
Malgré des moyens techniques que vous maîtrisiez de par une formation préalable ?
Exactement, j'ai fait une formation en tant que technicienne du son au BTS de Toulouse. Et c'est comme ça que j'ai pu utiliser assez facilement les logiciels tels que Ableton Live, et Ableton Live surtout, c'est ce que j'utilise le plus.
Un deuxième EP plus intime, vous êtes allé vers ce plus intime parce que vous étiez plus rassuré, plus sûr de vous, plus besoin de vous masquer un tout petit peu derrière un côté plus joueur.
Ouais, c'est exactement ça, mais c'est pas venu tout seul, j'ai pas eu de déclic, c'est vraiment une rencontre qui a fait ça. C'est vraiment la rencontre avec le producteur qui a fait toutes les chansons qui m'a permis de gagner confiance en ça. Si je ne l'avais pas rencontré, peut-être le déclic serait venu plus tard ou autrement, mais c'est vraiment quand même lui qui m'a donné confiance en moi là-dessus. Ouais.
Rap, électro, vous naviguez comment entre ces tendances-là ?
En fait, c'est une histoire plus de feeling. C'est-à-dire que j'ai écouté beaucoup d'électro quand j'ai fait ma formation en tant que technicienne, en fait. Donc, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup, beaucoup. Et moi, c'était la langue française qui m'intéressait énormément, en fait, au tout début du projet. Parce que c'était il y a longtemps, quand j'ai eu ces réflexions, ça devait être aux alentours de 2010. Et je crois que Stromae commençait à peine à émerger. Et ma réflexion, c'était que, en fait, j'avais l'impression que sur les grosses radios, on entendait un peu du chewing-gum, en fait. Donc des gens qui chantent très bien, trop bien, et c'est trop variété avec des textes que je trouvais assez niais, en fait. Bon, je fais une généralité, hein, parce que aussi, j'allais pas tant chercher que ça ce qui existait. Et si on allait dans le très, très indépendant, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de musicalité recherchée dans la langue française, vraiment dans le rythme de la langue. J'entendais souvent... Enfin, j'avais vraiment du mal à l'époque avec le spoken word, mais celui qui respecte pas tant que ça la musique. Mais bon, il y a plein d'artistes que j'ai loupés, et je m'en rends compte aussi aujourd'hui avec le fait de travailler dans la musique, bien évidemment. Et donc, partant de là, j'ai découvert O2N, et pour moi, O2N, ça a été la révélation totale, parce qu'ils avaient des poésies, vraiment, sur de la musique électro. Moi, j'adorais les deux. Et en rythme, genre vraiment comme le rap, en fait. Le rap, à la base, c'est rythme et une poésie. Et du coup, moi, je voulais faire ça, en fait. Et je voulais étendre un peu ce mouvement-là. Et c'est pour ça que je me suis vraiment lancée dans le rap alternatif, d'avoir des musiques un peu dansantes et électro, tout en étant vraiment tight sur le choix des mots. Et après, ce qui s'est passé, c'est que je pense que j'ai mal vécu le côté plus rap, parce que y avait un truc où les gens comprenaient pas mon délire. Le rap a vraiment monté et c'était difficile de me mettre dans une case rap. Moi-même, je me mettais pas dans une case urbaine. J'ai rien d'urbain. Je viens même pas de Paris. Je viens d'une petite ville, donc ça a créé un peu des trucs un peu chelous. Et même au final, j'écoute pas tant de rap que ça, à part évidemment MC Solar qui a été une grosse référence pour moi. IAM à l'époque, comme beaucoup de gens de mon milieu au final. Et évidemment, des années Stupéflip. Donc, c'était un peu compliqué. Et quand j'ai rencontré mon producteur, il m'a dit peut-être que tu devrais assumer. Quand on te rencontre, t'es quelqu'un de doux et de discrète. Pourquoi t'assumes pas ça et tu cherches à te cacher derrière un personnage extraverti ? Donc, à partir de là, j'ai changé. Et comme j'écoutais aussi beaucoup de chansons françaises, je me suis dit on va relâcher tout ça et on va juste prendre du plaisir.
Et ça a changé aussi sur la scène, votre comportement, votre...
Oui, bien sûr. Maintenant, j'essaye d'être de plus... c'est vrai que je m'agitais un peu sur scène, mais c'est bien parce que ça m'a donné confiance en moi. Et ça m'a permis aussi de comprendre que quand on adopte un comportement sur scène, le public suit aussi, c'est un travail aussi un peu d'acteur. Et j'y ai quand même pris du plaisir. Il y a des fois où je me suis vraiment éclatée et où ça m'a apporté plein de choses. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus calme et de plus... Je m'autorise même un peu à improviser dans mes paroles, des fois pas dans mes paroles de chansons, mais quand j'échange avec le public. Là où avant, j'apprenais vraiment par cœur mes prises de parole parce que c'est quelque chose de très stressant, je trouve. Donc maintenant, je m'autorise des ouvertures et un truc plus libéré.
Aujourd'hui, vous venez de dire, mais justement, aujourd'hui, un concert particulier, ne serait-ce que par sa durée,
oui.
Peut-être aussi par l'environnement. Comment ça se vit? Qu'est-ce que vous en attendez?
Ben moi, justement, j'essaye de me dire que c'est un concert comme un autre. Parce qu'après, quand on se met à stresser, à se dire que c'est une compétition, je ne sais même pas si c'est une compétition. Il y a des prix, mais c'est bizarre de se dire qu'on est en compétition entre artistes alors que c'est de l'art, qu'il y a des projets aussi. Moi, je me dis, mon projet, il est plus pop, donc peut-être il est plus facile à écouter aussi. Des gens pour qui ce n'est pas le cas, donc c'est un peu... Voilà, j'essaye de ne pas me dire que c'est un truc spécial. Je me dis juste que c'est un concert. En plus, il y a un public, donc c'est pas que des professionnels. Donc voilà, je vais juste le faire comme un autre concert, essayer d'y prendre du plaisir. Et la salle est très belle, le son est très chouette. Et il y a des beaux artistes qui jouent dans ce festival, donc je suis honorée d'y être.
Vous irez avec le même état d'esprit à un autre festival particulier, celui d'Avec la langue?
Bah, je vais essayer, oui, très clairement. Très clairement, ça va être un peu l'idée. Après, c'est bête à dire, il faut peut-être mettre les pieds dans le plat, mais comme c'est Paris et qu'à Paris, y a tout le monde sur place, tout le milieu qui se déplace, et je crois que c'est moins ouvert au public que Sémaphore en chanson, ça m'inquiète un peu parce que voilà, ça va être plus orienté vers les professionnels.
Aurée, on va se séparer en écoutant une deuxième chanson. Vous nous en parlez au préalable, c'est La vieille maison. Mm-hmm.
La vieille maison, c'est une chanson que j'ai commencé à écrire dans la maison de mes grands-parents, qui est à l'état d'abandon parce que mes grands-parents sont partis. Et c'était une manière de remercier la maison, mais aussi les personnes qui étaient à l'intérieur, donc mes grands-parents, et dans la chambre qui aujourd'hui n'a pas changé, ma chambre d'enfance. Donc je voulais en créer une chanson joyeuse, un au revoir joyeux.
Auré, merci.
Merci à vous.
Pour longtemps, elle restera dans mon cœur. La poussière n'efface rien d'elle. Les murs tombent, mais l'odeur douce d'hier revient derrière chacun de mes pas. Dans la fenêtre brisée par l'hiver, se reflètent les rêves qui m'ont amené là. Je t'assure que ma vie ne serait pas la même si je n'avais pas. Car derrière chaque pas et derrière chaque état, Billie a l'image de toi. Mais à chaque coup dur et à chaque claque, je m'imagine allongée là. Car derrière chaque pas et derrière chaque état, Billie a l'image de toi. Mais à chaque coup dur et à chaque claque, je m'imagine allongée là. Et quand j'y retourne, la lumière recouvre les couleurs.
Bella Ciao à retrouver sur toujoursbellaciao.blogspot.com. René Pagès, Jean-Claude Debar, à la semaine prochaine pour un Bella Ciao ou pour un set de cœur.